D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Les enchères sont sans doute un des systèmes de vente les plus anciens du monde. 35 000 ans avant notre ère, dans la grotte Chauvet, joliment éclairée au flambeau, la bonne société paléolithique, assise sur des poufs de pierre, levait la main pour enchérir de deux bisons supplémentaires pour acquérir une magnifique sculpture de déesse Callipyge datant au moins du Moustérien. On murmurait des histoires de faux. Il paraît que le marchand a un atelier dans une grotte d'Auvergne qui a conservé des pierres anciennes et des outils d'antan. Tu crois que le velu avec des bracelets de fer là au fond est un faux enchérisseur ? Passe-moi la table des prix, tu veux ? Ouf, que c'est lourd ! Bonne histoire est-elle beaucoup plus hasardeuse que les connaissances que l'on trouve sur Wikipédia ? On y raconte, et admettez-le si vous préférez cette légende à la mienne, que les premières ventes aux enchères ont débuté en 500 avant notre ère par le marché au mariage de Babylone. On le dit d'après Hérodote, qui décrit des femmes épousées par le plus offrant. Hérodote étant parfois un enjoliveur à la Blaise Cendrars, et qui plus est la seule source en la matière, on ne sait rien de bien sûr. En tout cas, ce que l'on n'a pas vendu aux enchères avant longtemps, ce sont les livres. Pour commencer, ils n'existaient pas ou n'ont pas existé sous leur forme actuelle avant 1455. Quant aux manuscrits, tous les manuscrits de littérature antique ont disparu, nous n'en connaissons que des copies médiévales. Et quand le manuscrit lui-même a-t-il commencé à être considéré comme rare ? Au moment de l'imprimerie ? Quand le désir pour ces pages s'est-il manifesté ? Et pour les volumes ? Comment a-t-on organisé ce commerce, puisque c'est un commerce de ce qui est attaché au livre et même à la pensée ? Oui, les commerces sont liés. Commerce, cela se dit dans le sens d'échange marchand de biens, mais aussi dans le sens d'échange d'idées. Un écrivain et dessinateur du siècle dernier, André Rouvert, a publié en 1921 un livre jouant sur ce sens du mot « Souvenir de mon commerce ». Et puis, il y a eu la fameuse revue Commerce, n'est-ce pas, la revue de Valérie Farguet-Larbeau de 1924 à 32. Ce commerce de livres et de manuscrits ne se fait pas immédiatement. Il ne s'agit pas d'œuvres ou d'objets neufs qu'on achète en quelque sorte comme ça. Il nécessite des catalogues. Quel est le secret professionnel des catalogues de vente publique ? Je reçois pour en parler Annelle Braun, vice-présidente de Sotheby's France, qui y dirige le département des livres et des manuscrits. Annelle Braun, avant d'étudier la question proprement dite des catalogues, je voudrais que dans la première partie de cette émission, nous nous intéressions d'abord aux ventes de livres et de manuscrits. Et pour commencer, comment en vient-on à diriger le département des livres d'une grande maison de vente ? Quelle est votre formation ?
Quel est mon parcours ? Alors j'ai un père bibliophile, donc j'ai vécu et j'ai grandi, je dirais, autour des livres et autour des manuscrits. Il les rapportait à la maison et était quelqu'un de très généreux qui nous les montrait toujours. Donc c'était très enthousiasmant. Et puis à l'âge de 18 ans, un été, j'ai fait des fiches pour lui. Parce qu'il avait besoin d'avoir un catalogue de sa bibliothèque. Et là, ça a été un espèce de choc de regarder les livres, de les regarder d'une autre manière et d'essayer de comprendre en fait l'intérêt des livres, d'une provenance, d'un envoi, d'un papier, d'une reliure, enfin toutes ces choses-là. Puis j'ai fait du droit, j'ai fait Sciences Po, mais vraiment j'aimais les livres et je me suis dit que c'était ridicule. Et à cette époque, Jean de Gonnet, un grand relieur, m'a dit qu'on cherchait quelqu'un, que la librairie Giraud-Badin cherchait quelqu'un. Donc j'ai été me présenter chez Giraud-Badin.
Qui était où ?
C'est une librairie qui est rue Guimer et qui organise beaucoup de ventes publiques, rue Guimer à Paris, en face du Jardin du Luxembourg. Je suis arrivée et là j'ai rencontré Claude Guérin et Dominique Courvoisier qui m'ont dit « mais on ne comprend pas, vous avez fait du droit, Sciences Po, pourquoi les livres ?» Donc je leur ai expliqué, ils connaissaient mon père et je leur ai dit « écoutez, prenez-moi l'essai pendant 3 mois, ne me payez pas. Si je trouve ça, si ça ne me plaît pas au bout de 3 mois, je pourrais partir. Et si vous me trouvez nul, dans 3 mois, vous pourrez me dire de partir. » Voilà, et ça a commencé comme ça.
Mais votre père n'était pas du tout de métier. Non, il avait une bibliothèque par goût.
Oui, il est bibliophile, il est collectionneur, collectionneur surtout du 19e et du 20e siècle. Et c'est vrai qu'il m'a passé sa passion, qu'il me l'a transmise.
C'est lui le premier qui a commencé à vous apprendre des choses ?
Oui.
Nécessairement.
Oui, en les montrant. Et puis j'allais avec lui, je l'accompagnais dans les ventes publiques, je l'accompagnais chez les relieurs, je l'accompagnais chez les libraires. Et c'est vrai que même s'il y a toujours eu des livres autour de moi, donc c'est quelque chose qui m'est très familier.
Et êtes-vous, Annelle Braun, comme la plupart des bibliophiles, ou souvent indifférente au contenu qui fait qu'on peut acheter aussi cher un Paul Fort qu'un Samuel Beckett ?
Non, pas forcément. Non, les textes, c'est important.
mais pas nécessairement dans le prix de vente, je veux dire. C'est pas un mal, d'ailleurs. C'est
non,
pas,
non, parce qu'il
y a parfois des tableaux affreux qui sont très bien encadrés.
Bien sûr,
on aime
oui,
beaucoup
c'est,
l'encadrement.
Je dirais, il y a beaucoup de choses qui jouent autour. Et après, tous les bibliophiles et tous les collectionneurs sont différents. Il y a des gens qui vont s'attacher à la reliure et vont être très agités par ça. D'autres par les grands papiers, d'autres par les envois ou les provenances, d'autres par les livres de science, par les livres de voyage, par la littérature. Donc, c'est des domaines qui sont très variés. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours nul, qu'on apprend sans cesse. Voilà, qu'on découvre tout le temps des choses.
Donc, en fait, pour continuer sur votre parcours, vous avez appris sur le tas dans une maison.
Exactement. J'ai travaillé à la librairie Giraud Badin pendant 5 ans. Puis après, j'ai été débauchée par Sotheby's et par Jean-Baptiste de Proyard. Et c'est vrai que je l'ai rejoint avec Jean Toulet, qui est un ancien conservateur de la réserve des livres rares à la Bibliothèque nationale. Et à nous trois, on a formé une équipe pendant plusieurs années. Voilà.
Ça veut dire que c'était une chose assez rare, ça, un conservateur de la Bibliothèque nationale passant au privé.
Oui, c'était un ancien conservateur. C'était une des premières fois. Oui, il n'était plus conservateur. Mais c'est vrai que il nous a appris énormément de choses. C'était quelqu'un de très généreux et qui partageait son savoir. Donc c'était formidable de travailler avec lui et d'apprendre.
Quand et où, si on le sait, ont eu lieu les premières ventes aux enchères de livres?
Alors c'était en Angleterre, en 1744. Et c'est le fondateur de Sotheby's. Les premières ventes de Sotheby's ont été des ventes de livres.
C'était Monsieur Sotheby's?
Non, il s'appelait Samuel Baker. Et il a organisé la première vente, c'était la bibliothèque de Sir John Stanley, et c'était des livres. Et après, il a fallu attendre très longtemps avant qu'il y ait des ventes de meubles, de mobilier. Les premières ventes ont été des ventes de livres.
Ah, les premières ventes
en Angleterre,
ont été des ventes de livres, en Angleterre.
Ouais. Et puis Sotheby's, après, a vendu la bibliothèque de Napoléon, que Napoléon avait emporté en exil en 1823.
Alors ça, c'est l'Angleterre et votre illustre maison, mais en France, qu'est-ce que...
Alors en France, je crois que les ventes ont commencé au début du 18e ou au milieu du 17e. Voilà. Je crois que c'est vraiment au début du 18e siècle que les ventes ont commencé en France. Il y avait beaucoup de bibliophiles, il y avait une tradition de collectionneurs de livres.
Et particulièrement en France ?
Particulièrement en France. Et le plus grand collectionneur, un des plus grands collectionneurs au XVIIe, était le duc de Lavallière, qui lui avait une collection absolument remarquable qui allait des manuscrits, des incunables jusqu'à son époque. Et il faisait tout relier. Enfin, c'était un énorme collectionneur. Là.
Et comment expliquez-vous que les Français étaient plus bibliophiles ou premiers bibliophiles? Est-ce que c'est à cause de la place de la littérature en France ou pas du tout?
Oui, c'est possible.
Ou c'est fortuit?
Non, c'est possible, mais c'était aussi... En fait, les Français aimaient beaucoup faire relier et conserver joliment leurs livres. En Angleterre, les livres sont conservés d'une manière beaucoup plus modeste.
Et les ventes public de manuscrits, ça date de quand? Ça date du moment de ce qu'on a appelé du sacre de l'écrivain au 19e siècle? C'est antérieur? C'est...
En fait, les manuscrits, alors il faut distinguer ce que vous aviez fait tout à l'heure, les manuscrits médiévaux, effectivement, alors ça, c'est ça, je dirais, il y a toujours eu une tradition, parce qu'il y avait toujours des manuscrits enluminés dans toutes les grandes collections. Après, la conservation, c'est vrai, des manuscrits littéraires, on voit beaucoup plus apparaître aujourd'hui des manuscrits du 19e ou du 20e siècle. Il y en a aussi du 18e siècle, bien sûr, Rousseau et d'autres, mais c'est vrai qu'on ne conservait pas forcément les manuscrits. Par exemple, des manuscrits de Molière, on n'en a jamais vu, ça n'existe pas. On connaît juste sa signature sur un acte notarié, ce qui a fait dire à beaucoup de gens que Molière n'avait pas écrit ses pièces et que c'était Corneille. Enfin, il n'y a aucune preuve, puisqu'on a... Si demain quelqu'un arrive avec un manuscrit de Molière, je serais absolument incapable de dire « Oui, c'est bien l'écriture de Molière et je suis certaine que c'est un manuscrit de Molière ».
Mais est-ce que ça n'est pas caractéristique surtout des auteurs de théâtre? Parce que les auteurs de théâtre dictaient, c'était copié, c'était beaucoup moins écriveur que des romanciers, non?
Oui, c'est vrai. C'est possible, mais c'est vrai que les manuscrits anciens, enfin les manuscrits littéraires anciens, sont beaucoup plus rares. Vraiment beaucoup plus rares, ouais.
Et donc beaucoup plus chers.
Pas forcément. Parce qu'un texte peut être important. Par exemple, si le texte de la Chartreuse de Parme, le manuscrit de la Chartreuse de Parme ou le manuscrit de Du côté de chez Swann sont des manuscrits qui aujourd'hui auraient des prix absolument fabuleux. C'est le texte, c'est l'importance du texte. Tout à l'heure, on parlait du texte. Le texte est extrêmement important aussi.
Depuis quand a commencé la vente des livres et des manuscrits chez Sotheby's?
La première vente qui a eu lieu chez Sotheby's à Paris était une vente de livres et de manuscrits. Ce qui était, c'est le calendrier qui est le hasard du calendrier qui a fait ça. C'était la vente de Charles Aywa, un grand bibliophile belge, et c'était la troisième partie de sa vente. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée chez Sotheby's en 1997, et depuis 1997, Laure de Beauvau allait à Bruxelles.
Et qui était Laure de Beauvau?
C'était la présidente, la princesse de Beauvau, était la présidente de Sotheby's France, et elle essayait de mettre fin au monopole des commissaires-priseurs en France, et pour que les maisons de vente anglo-saxonnes, Sotheby's et Christie's, puissent vendre en France. Et donc, ça a été son grand combat. Et c'est vrai que dès 1997, on pensait que la loi passerait et qu'on pourrait faire des ventes de livres et de manuscrits en France. Alors, il y a plusieurs ventes qu'on avait cataloguées en France et qu'au dernier moment, on a envoyées en Angleterre, comme la vente d'Ortiz Patino, comme la vente de Renaud Gillet, la vente de photographies d'André Jam, enfin des ventes très importantes. Et puis tout d'un coup, on a eu le droit de vendre et par la magie du calendrier, c'était une vente de livres. Et c'était cette vente de Charles Aïwat. Et le premier livre qui avait été mis en vente, c'était Le Feu de Gabriel D'Annunzio. Donc ça nous amusait parce qu'on se disait, voilà, c'est Le Feu. Et en fait, voilà, ça commence, les ventes publiques commencent en France.
Une édition en français du Feu.
Ouais.
Et d'ailleurs, à ce sujet, comment faites-vous, vous, pour... Vous êtes une très grande maison de vente, donc j'imagine qu'on s'adresse assez spontanément à vous, mais j'imagine qu'une partie de votre métier aussi consiste à courir après les bonnes affaires.
Bien sûr, évidemment. C'est de connaître les collectionneurs, d'aller les voir, de les persuader de vendre leurs livres, leurs manuscrits, de les persuader qu'on est les meilleurs, qu'on connaît tous les acheteurs. Enfin voilà, ça fait partie aussi du jeu. Les collections n'arrivent pas comme ça, pas juste sur un coup de téléphone. Et puis souvent, on est mis en concurrence avec les autres maisons. Enfin, c'est comme dans la vie.
Qui sont vos principaux concurrents parmi les meilleurs?
Alors, les autres maisons, moi, je vous parle de la France, parce que c'est un marché que
je connais bien.
Mais il y a évidemment Christie's, Arcurial, Pierre Berger Associé, Binoche et Jiquello, Alde, enfin c'est toutes ces maisons-là.
Et est-ce que les libraires qui tiennent boutique et qui vendent aussi sont des gros concurrents ou pas vraiment?
Oui, ce sont des concurrents et en même temps ce sont des collaborateurs. Très souvent on organise des ventes avec eux, ce sont aussi des acheteurs, donc c'est un petit milieu. Les collectionneurs, les marchands, les experts, les maisons de vente, en fait on est tout un petit milieu et en général ça se passe très bien, les gens s'entendent bien. Donc
Pierre Berger qui me parlait de sa collection ici dans Secret Professionnel disait qu'au fond c'était surtout la France qui avait des grands acheteurs de livres et de manuscrits et que dans le reste du monde c'était beaucoup plus rare.
Non, c'est vrai, c'est-à-dire que vraiment il y a une tradition de collectionneurs en France qui existe aussi en Suisse. Il y a aussi beaucoup de collectionneurs en Suisse, il y en a quelques-uns en Belgique, mais c'est vrai qu'il y a une grande tradition en France de libraires et de collectionneurs. Et les libraires ont un vrai rôle auprès des collectionneurs, puisqu'ils les forment, ils leur apprennent des choses, des conseils, et donc il y a une part importante, il y a une collaboration, je dirais.
Nous allons maintenant entendre une vente de livres français modernes à Londres, commentée par le libraire et le directeur de la vente. C'était sur la première chaîne de Paris Inter, le 2 avril 1963.
On nous envoie de Londres un écho des enchères. C'est là, chez Sotheby, qu'on avait vendu, vous vous en souvenez, un certain nombre de tableaux modernes, des Cézanne, des Goya, qui avaient atteint des cotes astronomiques. Aujourd'hui, ce sont des livres qu'on vend, des livres français, des livres modernes.
Monsieur Levy, vous êtes libraire à Paris et vous êtes venu aujourd'hui à Londres pour cette vente de livres illustrés français, la première, je crois, de ce genre.
Oui, en effet, c'est la première vente intéressante de ce genre qui a lieu à Londres.
Qu'est-ce qui vous a spécialement intéressé dans cette vente?
Eh bien, certains livres, notamment illustrés par Rouault, par Picasso, par Matisse, et un livre que j'aurais bien voulu acheter mais qui a fait plus cher que je l'estimais, et qui est particulièrement intéressant, c'est La brebis galante de Perret, qui est illustré par Max Ernst, un exemplaire unique qui comportait deux dessins originaux.
Et est-ce que les prix, sont à votre avis comparables à ceux qu'ils auraient atteints si la vente avait eu lieu à Paris?
Dans l'ensemble, je crois que les prix ont été suffisamment élevés, et je pense qu'à Paris, le résultat aurait été à peu près identique.
Le Miserere a atteint combien?
Le Miserere a atteint 12 500 francs. 12 500 livres.
Je vous remercie beaucoup, monsieur. Monsieur Hobson, vous venez de diriger cette vente. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions?
Nous sommes très satisfaits du résultat de la vente. C'est la première vente spécialisée de livres modernes illustrés, livres français, qui a eu lieu à Londres. Et j'avais un peu peur que personne ne venait de Paris pour assister à la vente. Mais en effet, il y avait beaucoup de Français, et en plus, il y avait des Italiens, des Anglais, même quelques Américains, qui ont tous fait de la concurrence pour ces livres. Et je trouve que c'était une très grande occasion pour le public anglais d'acheter les très beaux livres qu'on a produit en France pendant les derniers 40 ans.
Annel Brand, je voudrais que maintenant nous passions à la partie purement catalogue et qui est peut-être la moins connue de notre affaire. Je crois qu'il existe un catalogue de Gersin, le fameux Gersin de l'enseigne
de
Gersin
Bateau.
Ah oui,
c'est vrai, bien sûr. Au 18e, non ?
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est plutôt.
Qui est le catalogue raisonné des différents effets curieux et rares contenus dans le cabinet de feu Monsieur le Chevalier de la Roque. Vous le connaissez, ce catalogue ?
Oui, je l'ai vu une fois. Ouais.
Et alors ?
Les fiches sont extrêmement succinctes. Hein. C'est vraiment des numéros avec deux lignes. C'est à peine décrit. C'est vraiment.
Ah oui.
Mais c'est vrai que les premiers catalogues de livres étaient des catalogues en noir et blanc avec des couvertures assez en toile. Et c'était vraiment des catalogues ou en papier, mais c'était vraiment des catalogues où la description était. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune
illustration. Deux lignes, un prix.
Voilà, deux lignes, un prix, aucune illustration. Aujourd'hui, vraiment, les catalogues, et on le voit même avec le catalogue de la vente Pierre Berger, sont des catalogues extrêmement documentés, très illustrés, avec vraiment énormément de recherches qui sont faites. Avant, non. Avant, les catalogues sont vraiment extrêmement rapides. Et souvent, on retombe sur des livres qui ont été vendus dans des ventes au début du XXe siècle, et les fiches faisaient 4-5 lignes, et aujourd'hui, elles peuvent en faire 2-3 pages.
D'ailleurs, c'est une question importante que vous soulevez là, Annel Brown. C'est aussi que tout ça, c'est lourd à faire et ça coûte très cher. Et c'est tiré, j'imagine, à assez peu d'exemplaires. Mettons, là, vous venez de réaliser une très jolie vente qui est la vente Proust. Mm-hmm. Dites-moi de manière assez matérialiste, combien ça a coûté ce catalogue ? En gros, j'imagine que vous n'avez pas les chiffres en tête. Et à combien vous avez tiré ? Est-ce que ça a coûté 20 000 euros ou 100 000 ? Est-ce que vous avez tiré à 1 000 exemplaires ou à 2 000 ? Vous savez, c'est à peu près.
Alors, à peu près. Je sais qu'on a tiré à 3 000 exemplaires. Le catalogue, c'était la collection donc d'objets qui avaient appartenu à, et de livres et de photographies qui avaient appartenu à Marcel Proust et qui appartenaient à son arrière-petite-nièce, Patricia Mande Proust. Et c'est un catalogue qui a été épuisé très rapidement. Et qu'on a tiré à 3000 exemplaires. Alors, le prix de ce catalogue, il était avec un autre catalogue. Donc, je ne peux pas vraiment. S'il y avait deux catalogues ensemble,
c'était une vente mêlée. Donnez-moi un exemple à partir d'un autre catalogue à peu près, quoi, enfin.
Je crois que les catalogues coûtent autour de 30 000, 40 000 euros. Mais ça dépend. Je pense que le catalogue de Pierre Berger a coûté beaucoup plus cher. Ça dépend comment ils sont imprimés, si la couverture est cartonnée, si la couverture est souple, si les cahiers sont cousus, s'ils sont collés, enfin, le grammage du papier. Tout ça sont des données. La distribution aussi. Si on le distribue à l'étranger. En France, enfin, ça dépend.
Je vous pose cette question parce que j'imagine, peut-être à tort, qu'il y a des pressions à cause de l'informatique et d'Internet et qu'on pourrait se dire, ou qu'on peut peut-être vous dire chez Sotheby's ou que vous vous dites, finalement, tout ça coûte une fortune, ça peut être très bien sur Internet et publions ça sur Internet. Est-ce que ça serait possible ou est-ce que vos acheteurs sont tellement méticuleux qu'ils veulent de l'imprimer ?
Non, alors on fait les deux. Et Internet est une chose absolument formidable, c'est que maintenant, on touche un public beaucoup plus large, beaucoup plus rapidement. Et on se rend compte que non, on ne pourrait pas supprimer les catalogues papier parce que, par principe, les collectionneurs de livres aiment l'objet livre, aiment le papier, aiment ce qui est écrit. Mais c'est vrai que ça nous permet d'atteindre beaucoup plus de monde. Et c'est ça l'avantage.
Ça veut dire que vous mettez en ligne, en même temps que le catalogue papier, un catalogue PDF, c'est ça, qui
oui,
est accessible à tout le monde.
À tout le monde.
Alors, quel est le premier catalogue que vous, Annel Brown, avez réalisé ? Vous vous en souvenez ?
Alors, le premier catalogue, c'était chez Giraud Badin, quand je suis arrivée. C'est un catalogue sur des tableaux et toute une iconographie autour de Paul Verlaine. Voilà, et c'était formidable. Il fallait faire des recherches, il y avait des manuscrits, il y avait des tableaux, il y avait des photographies.
On n'est pas seul à réaliser un catalogue ?
Non, jamais. C'est ça qui est intéressant aussi. On est plusieurs, on le rédige à plusieurs, on le relie à plusieurs, on se pose des questions, on s'interroge, on n'est pas sûr. Et c'est ça qui est bien, c'est un travail d'équipe. Toujours.
Quelle est l'équipe ?
Alors l'équipe chez Sotheby's, nous, là on est trois, mais c'est vrai qu'on peut interroger aussi des spécialistes. Il y a toujours des spécialistes très importants. Là, par exemple, pour le catalogue de la collection Marcel Proust, on a interrogé Jean-Yves Tadier, qui a été absolument formidable, mais aussi Françoise Le Riche, enfin tous les gens qui tournent autour de l'univers de Marcel Proust. Pour Mallarmé, on a interrogé Bertrand Marchal.
Et est-ce qu'il y a une grande entreprise de secret au moment où on commence le catalogue ? Parce que les ventes, c'est aussi de la concurrence. Donc, comment ça se passe de ce point de vue-là ?
Ah oui, alors ça, c'est... Et puis, il y a toujours un communiqué de presse qui va annoncer la vente. Donc, on est dans le secret, puisqu'une vente se prépare à peu près 6 mois, 1 an avant. Donc, on ne dit rien. Et on attend le moment où la presse va être au courant. Et c'est à ce moment-là où on peut commencer à en parler. Et tout ça est décidé, calculé. Alors, ça peut arriver qu'on prévienne les institutions avant pour qu'elles puissent se préparer à la vente.
C'est-à-dire en cas de préemption.
Voilà, en cas
ça.
De préemption, si jamais, parce que c'est vrai que les budgets sont difficiles à acquérir, et donc si on les prévient un peu plus tôt, c'est mieux pour s'ils reçoivent le catalogue un mois avant. C'est un petit peu, je dirais, trop rapide pour eux pour pouvoir se retourner et arriver à faire quelque chose.
Mais ils sont prévenus avec une condition de confidentialité, c'est
tout
ça?
Tout à fait, tout à fait.
Et vous, quand vous élaborez votre catalogue, vous êtes donc avant que les journalistes soient prévenus. Donc vous demandez à toutes vos équipes de rester... j'imagine que vous n'avez pas le demandé.
Non, on est tous tenus au secret professionnel, on ne dit rien. C'est vrai que même quand on va voir un marchand ou quelqu'un, on lui demande de tenir le secret, ou même quand on va voir des conservateurs avant, parce qu'au moment de la rédaction du catalogue, il y a des recherches qui sont faites, donc souvent, on a besoin d'interroger des gens. Alors par moment, les collections sont... On est au courant des collections, mais c'est vrai que la collection, par exemple, de Stéphane Mallarmé, qui est arrivée un peu rapidement, tout ça a été, tenu un peu secret. Et on avait le manuscrit du coup de dé, qui était quelque chose d'absolument formidable, qui a été classé trésor national.
Qui venait d'où ?
Alors le manuscrit du coup de dé, en fait, est arrivé par des descendants d'un poète auquel le gendre de Stéphane Mallarmé avait cédé, je dirais, les droits et avait...
Et la propriété
des... Et la propriété, ouais, des livres et des manuscrits, parce que lui ne se considérait pas du tout...
À même,
à la hauteur, en fait, de cette collection. Et considérait que ce poète était la personne la plus importante... Il avait écrit un livre sur Mallarmé, donc voilà, il lui a confié la collection.
Et d'ailleurs, le manuscrit du coup de dé sur des grandes pages, puisque, comme nous savons, c'est un manuscrit, un poème d'une composition très singulière.
Oui, très, très compliqué, magnifique. C'était une vraie émotion, c'est ça, dire ce métier est une merveille pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on débarque quelque part, on nous a dit, vous allez voir la bibliothèque de Stéphane Mallarmé. Alors, on s'est plutôt amusé en disant, non, on ne va certainement pas voir la bibliothèque de Stéphane Mallarmé, on va sûrement voir des ouvrages de Stéphane Mallarmé. Et quand on est arrivé et qu'on nous a ouvert la porte, effectivement, c'était la bibliothèque de Stéphane Mallarmé. Donc, c'est un choc. Il y avait des photographies absolument superbes de sa maîtresse, des photographies, une très belle photographie de lui avec Renoir prise par Degas chez Julie Manet. Il y avait le manuscrit du coup de dé. Enfin, il y avait des choses absolument admirables. Beaucoup de livres avec des envois à Stéphane Mallarmé et des lettres. Et voilà, c'est la découverte. On ne sait pas où on va. Souvent, on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on va découvrir.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté Sherlock Holmes dans ce que vous faites ?
Bien sûr. Ça, toujours. Une fois, on m'avait appelé pour aller voir un manuscrit qui est un manuscrit absolument formidable de Cellulairement de Paul Verlaine. Un manuscrit, donc on m'a dit, voilà, venez, il y a juste un manuscrit. Et donc j'ai demandé la provenance. La provenance, c'était la provenance de Louis Barthou, qui est un grand collectionneur du XXe siècle. Donc il a eu des grandes ventes en 1935.
Barthou, le ministre ?
Oui, le ministre. Voilà. Et en 1935, il y a eu de grandes ventes. Et puis on me dit, venez. Donc j'arrive et je vois ce manuscrit. Avec la première page, il y avait écrit « Entrée en prison » et la dernière « Sortie de prison ». Et Cellulairement, donc, faisait allusion justement à l'emprisonnement de Verlaine après avoir tiré sur Rimbaud et sur sa condamnation à Mons. Et tous les poèmes qui étaient contenus dans le recueil n'étaient pas des poèmes qui ont été repris par la suite dans un seul recueil. Ils ont été dispatchés par Verlaine dans différents recueils. Et donc, c'était très étonnant de voir ça, parce que c'est quelque chose de pas vraiment encore très connu.
On ne le savait pas ?
Non, il y avait eu une petite publication 20 ou 30 ans plus tôt, mais ce n'était pas quelque chose qui était complètement encore vu, et ça avait été classé effectivement trésor national aussi.
Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ? Je pense que vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais je dois vous le demander. Est-ce que c'est de vendre ou d'élaborer un catalogue ?
Alors si je peux vous répondre, je crois que c'est d'élaborer le catalogue réellement. C'est la découverte en fait. C'est, comme vous dites, c'est le travail de Sherlock Holmes. On ne sait pas ce qu'on a. Et on va chercher le plus loin possible. On a une lettre, on ne sait pas à qui elle a été écrite, et on va essayer de comprendre à qui elle est écrite. Et donc c'est ce travail-là. Une fois, j'ai eu une correspondance de Victor Hugo à une femme, on ne savait pas à qui elle avait été écrite. C'était sur des toutes petites feuilles très fines, comme du papier à cigarette. Et on sentait que les lettres étaient adressées d'abord à une première femme, mais les feuilles qui étaient roulées étaient adressées à une deuxième femme, qui était sa maîtresse, qui était une de ses maîtresses à Paris. Et elle s'appelait Léonie Denet, et c'était des lettres qui n'étaient pas connues, et il a fallu chercher. Donc là, évidemment, on va voir à la maison de Victor Hugo, puis petit à petit, on trouve les spécialistes qui partent sur des intuitions. Voilà. Mais on fait aussi des grandes découvertes. Par exemple, j'avais une lettre à vendre qui était formidable, qui était une lettre de Cézanne à Zola, où il lui disait, c'était une lettre qui avait été écrite un an après l'œuvre, et on a toujours dit que Cézanne, quand il avait lu l'œuvre, s'est reconnu dans le peintre, le héros du roman, et on avait voulu à Zola, et que à ce moment-là, ils s'étaient brouillés l'un et l'autre, ce qui était complètement faux, c'est puisque faux. La lettre que j'avais dans les mains prouvait qu'un an plus tard, Cézanne lui disait, quand je viendrai à Paris, je viendrai te voir. Donc c'était, voilà, ça mettait fin à une idée reçue qui était fausse. On a vendu aussi à une époque des discours de Robespierre. Alors ça nous a appelé, quelqu'un nous a appelé en disant, voilà, on a des brouillons des discours de Robespierre. Donc nous, on a cru que c'était une blague, parce que ça paraissait tellement inouï. Et en fait, réellement, c'était des discours qui avaient été gardés dans la même famille de Lebas, de Philippe Lebas. Et c'était des discours qui étaient très étonnants, parce qu'ils étaient bien encore plus brutaux que parce qu'après...
Que les transcriptions
voilà, parce qu'une fois que les choses sont réécrites, les choses, je dirais, sont moins spontanées. Voilà. moins spontanée.
Et ça, est-ce que ces discours que vous avez vendus ont été depuis repris en volume et retranscrits?
Non, ils ont été préemptés par les archives nationales.
Maintenant, mais je veux dire en édition.
Ah non, je ne crois pas.
Ah ça, alors, c'est très étrange.
Ah ouais.
Il faut dire Robespierre est un peu moins à la mode.
Voilà, mais... c'est un peu moins à la mode, mais c'est vrai qu'au moment de la vente de ces discours, il y a eu énormément de monde. C'était absolument étonnant. La salle d'exposition était noire de monde, les gens venaient les regarder. Alors, il y avait des gens qui étaient furieux, d'autres qui étaient admiratifs. Enfin, c'était assez passionné comme moment et c'était vraiment bien.
Mais comment est-ce qu'on peut attester la véracité de l'écriture de Robespierre?
Parce qu'on la connaît.
On la connaît,
elle n'est pas inconnue du tout. Donc, c'était quelque chose qu'on connaissait. Voilà. Sinon, dans les ventes aussi un peu magiques, il y a eu la vente de Jacques Brel, ce qui peut paraître étrange quand on vend des manuscrits, de la littérature. Mais là, il y avait des manuscrits de ses chansons. Donc, on avait organisé un événement, je me souviens, c'était pour les 30 ans de sa mort, et on avait organisé un événement au moment de la Nuit Blanche. Et là, il y a eu un défilé continu de personnes de toutes générations confondues qui venaient voir les manuscrits, Alors, il y avait le manuscrit d'Amsterdam, des Vieux Amants, enfin de Mathilde, il y avait de grandes chansons, mais il y avait aussi des souvenirs, des photographies, voilà.
Mais ça, c'est plus de l'ordre des fans et des groupies ou des vrais...
Alors,
Il y avait les deux.
C'est ça qui est... C'est ce qui est merveilleux dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on touche à la fois à Rousseau, à Jacques Brel, à Robespierre, à Proust.
Est-ce qu'il existe un catalogue des catalogues? Parce qu'après tout, vous faites un métier qui n'est pas si ancien, mais qui date de 1750, nous dites-vous à peu près. Ouais. Est-ce que quelqu'un a jamais pensé à recenser
Il doit y avoir un catalogue des catalogues à la Bibliothèque nationale, j'imagine.
Est-ce que vous
êtes sur le site de Gallica.
Est-ce que vous êtes tenu par le dépôt légal de déposer vos catalogues?
On leur envoie, oui, tous les catalogues sont envoyés, donc je pense que ça doit être répertorié quelque part, certainement.
Répertorié, oui, mais l'inventaire n'en a pas été fait.
Je ne sais pas. Ça, j'en ai aucune idée. C'est vrai que ce serait assez amusant. Peut-être que ça existe.
Est-ce que vous-même, dans votre maison chez Sotheby's, vous avez fait des classements ou un catalogue de vos ventes 19e, des catalogues de ventes 19e, un catalogue des catalogues des ventes, non?
Non, on adorerait, mais malheureusement, on n'a pas le temps. C'est-à-dire que toutes les ventes et tous les catalogues qu'on doit rédiger nous empêchent, et les inventaires nous empêchent, en fait, de repartir en arrière aussi loin.
Est-ce que vous les archivez quelque part?
Bien sûr, on les garde.
Vous les reliez?
Pas forcément.
Quel est le catalogue qui vous a fait le plus plaisir à écrire? On a parlé de la difficulté, des recherches, de l'amusement du côté Sherlock Holmes. Un, d'ailleurs, c'est idiot de dire un seul, mais le ou les catalogues qui vous ont, dont vous vous dites, voilà, dans ma carrière, ça m'a fait plaisir.
Il y en a eu plusieurs, mais je dirais que celui sur Marcel Proust est certainement celui qui m'a le plus touché, puisque c'est mon écrivain préféré. Donc, tout d'un coup, d'avoir les choses qu'il avait eues en main et de le connaître encore plus, c'était quelque chose de très émouvant. Et donc, on a fait un catalogue chronologique, on a essayé d'expliquer sa vie, on a essayé de le faire le mieux possible et travailler des nuits entières.
Et quand il vous arrive d'établir un catalogue sur un écrivain que vous n'aimez pas, est-ce que vous grincez des dents?
Oui. Bien sûr.
Dites-moi un nom.
Non, je dirais rien, mais il faut bien le faire dans ces cas-là. Mais il y a plein d'autres collections, je dirais. Il y a eu des collections formidables. Les collections de Pierre Leroy ont été des collections formidables. Je ne peux pas toutes les citer.
Bien sûr.
Fred Fincilbert, c'était formidable. Renaud Gillet, c'était extraordinaire. Donc il y a eu vraiment, je dirais, c'est la magie. On ne sait pas avant.
Est-ce que, depuis que vous avez commencé à écrire ou à réaliser des catalogues, vous avez constaté une évolution? Est-ce que les choses ont changé dans l'écriture et la composition des catalogues, ou c'est une science à peu près statique?
Je dirais que les catalogues sont de plus en plus renseignés, rédigés qu'avant.
Est-ce que vous êtes constitué une collection de livres et de manuscrits?
Alors malheureusement, j'ai des goûts de luxe. À force de voir des exemplaires absolument formidables et d'avoir l'impression qu'ils m'appartiennent pendant 3 mois, j'ai pas les moyens de mes goûts et voilà. Mais je les ai, j'en profite.
Est-ce que le secret professionnel d'Annelle Braun est qu'elle a une collection de livres de poche?
Ah ça oui, j'ai des livres chez moi partout, et ça c'est sûr. J'ai une maison qui est pleine de livres, des piles, des livres, et je ne sais plus où les mettre, mais voilà, je ne peux pas vivre sans livres.
C'était Secret professionnel, le 227e. La semaine prochaine, nous irons à la recherche du secret professionnel de la culture à la télévision. Réalisation, Clotilde Pivin. Attaché d'émission, Daphné Amiral. Prise de son, Pierre Monteil. Recherche INA, Sophie Chauveau. Dans un instant, une saison au théâtre.